Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le point de limite, c'est le but de ce podcast, est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel puisque nous sommes dans les locaux de l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et plus particulièrement dans le bureau de Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'agence. Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Guillaume Prigent.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc, monsieur Poupard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes l'agence pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'ANSSI?
Quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas. L'ANSSI a été créée en 2009, mais on a une longue histoire puisqu'on s'appuie sur des services historiques, on va dire. Créée en 2009 de manière à traiter les questions de sécurité informatique au niveau de l'État. Protéger les administrations, mais de plus en plus protéger également les autres, ce qu'on appelle dans le jargon les opérateurs d'importance vitale. Donc toutes ces entreprises, toutes ces sociétés donc, qui ont vraiment une importance pour la sécurité globale de la nation. Donc pour faire ça, on fait de la protection, donc de l'anticipation, on cherche à éviter les attaques, c'est toujours mieux de les éviter. On fait de la détection, on est capable de détecter ces attaques, on a notamment des systèmes, des sondes qui sont déployées dans les ministères de manière à détecter au plus tôt les attaques. Et on est également capable de faire de la réaction, de projeter des équipes de manière à comprendre ce qui se passe, à limiter les conséquences des attaques et à aider à reconstruire les systèmes quand c'est nécessaire.
Alors, quelles sont les actions que vous êtes amené à prendre?
Alors, les actions, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est 450. Donc, on a vraiment une multiplicité de métiers et de talents au sein de l'agence pour prendre ces actions. Les actions préventives, alors, on pourrait en faire une liste très longue, mais globalement, c'est de développer des produits de sécurité, de développer des guides, des méthodes de sécurisation pour aider tous ceux qui doivent ou souhaitent se sécuriser. Pour ça, on s'appuie sur des laboratoires également, des laboratoires qu'on veut d'excellence. Donc on a des gens qui sont brillants, qui nous permettent vraiment d'avoir une connaissance intime des technologies nécessaires à la sécurisation. On s'appuie également sur de la réglementation. On est une agence nationale, on utilise la loi et on l'assume pleinement, de manière à avoir à maîtriser ce qui se passe en termes d'importation, d'exportation de produits de sécurité, en termes de déploiement de produits qui pourraient être sensibles. Et puis on a donc toute la partie opérationnelle que je mentionnais. Cette partie opérationnelle qui vise à être capable d'auditer, donc c'est plutôt de la prévention, à être capable de détecter, à être capable de réagir, de manière à ce qu'on ait tout le cycle, quelque part, de cybersécurité, de SSI, qui soit implémenté au sein de l'agence, même si le but n'est pas de concentrer toutes les capacités au sein de l'agence. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'agir, mais également de développer dans d'autres ministères ou bien au sein de prestataires privés ses compétences, de manière à avoir vraiment suffisamment de force pour lutter contre les cyberattaques.
Quelle est la part de l'intervention sur le terrain des personnes de l'ANSSI?
Alors ça dépend de ce qu'on appelle sur le terrain. On a, dans les aspects préventifs, on mène des contrôles. On mène des contrôles et même des inspections au sein des ministères. Donc, qui dit inspection dit que c'est non sollicité. Ça fait partie de nos attributions. L'idée, c'est vraiment d'aller voir l'état réel de la sécurité au sein des ministères. Et entre nous, puisqu'il n'y a pas de micro, il y a des fois on n'est pas déçus. C'est très hétérogène, en fait, pour être très clair. Il y a des endroits où les choses sont très sérieuses. Je ne citerai personne, parce qu'après, je me fais des ennemis, mais des endroits où c'est très sérieux. Le ministère de la Défense, que j'aime bien de par mon histoire, est quand même un ministère qui a mis beaucoup d'efforts sur le sujet. Et puis il y a d'autres ministères pour qui ces questions de sécurité sont quand même beaucoup plus éloignées par nature, et chez qui les problèmes de budget, les problèmes de moyens font que faire de la sécurité, c'est pas simple. Donc notre rôle, c'est d'identifier les lacunes et surtout de les aider à les combler. Donc on ne se contente pas de dire ça va pas chez vous, on explique précisément ce qui va pas, on les aide à construire un plan d'action, et on va même parfois jusqu'à essayer de les aider à avoir des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre ces plans d'action, même si évidemment c'est pas toujours facile. Donc ça c'est pour la partie étatique, j'ai envie de dire. Depuis peu, on a une loi en France qui impose aux opérateurs d'importance vitale, donc toutes ces sociétés, y compris privées, qui sont importantes pour la nation, pour la sécurité de la nation, donc pensez à l'énergie, au transport, à la finance, à l'industrie, bref, tout ça. Eh bien, on a une loi qui impose à ces opérateurs de sécuriser. On n'est plus dans le conseil, on est dans quelque chose d'obligatoire. Et donc là, on peut être amené à faire des contrôles. La loi nous y autorise et on ne va pas s'en priver. L'idée, ce n'est pas justement de les piéger. C'est vraiment d'aller constater sur le terrain ce qui est potentiellement défaillant pour les aider à se sécuriser. Et là, le rôle de l'ANSSI, ce n'est pas de tout faire, mais on se concentre sur les infrastructures les plus critiques. Centrale nucléaire, c'est un exemple, parmi d'autres. Mais voilà, des endroits où vraiment il y a des questions de sécurité très fortes et où on s'appuie sur notre côté étatique, quelque part, pour inspirer vraiment une confiance de très haut niveau dans les travaux qui vont être réalisés sur de telles infrastructures.
Et dans les personnes qui interviennent sur le terrain, vous avez des équipes qui sont un peu spécialisées dans des secteurs d'activité bancaires, énergie, ou est-ce que ça tourne ?
Non. Alors là je mentionnais le côté contrôle, inspection, audit. On a également tout le côté réactif, hein, les gens qu'on va projeter pour comprendre ce qui s'est passé, pour préserver les preuves, puisque l'idée c'est quand même bien d'aller un jour d'attraper les attaquants. On commence, mais enfin c'est vrai que c'est le début. Donc préserver les preuves pour aider les services de police et de justice, et puis être capable de reconstruire les réseaux. On peut prendre l'exemple de TV5, puisque c'est un exemple qui a été médiatisé. Chez TV5, on a projeté 15 personnes qui ont des compétences différentes, complémentaires, pour être capable de préserver les traces laissées par les attaquants, parce qu'ils en ont laissé plein, pour être capable de protéger le réseau, en gros d'endiguer l'attaque, mais également de permettre aux services d'être rétablis au plus vite, au moins en apparence. Pour TV5, c'est absolument fondamental de réémettre. Un écran noir pour un média télé,
c'est mortel.
Cauchemar absolu. Ouais. Et ça, moi, j'ai découvert à ce moment-là toutes les conséquences même que ça avait pour eux en termes de contrat, en termes de survie même de la chaîne. Donc, les aider à relancer le truc. Et puis, sur un temps beaucoup plus long, les aider à remettre en place un système sécurisé. En gros, il faut bien savoir que les journalistes de TV5, pendant plusieurs mois, ils ont travaillé sans Internet ou avec un Internet très dégradé. On ne pouvait pas rebrancher le système. Il fallait complètement le reconstruire avant de le rebrancher, parce qu'autrement, l'attaquant aurait immédiatement repris ses attaques. Donc pour ça, voilà, on a des équipes avec des compétences pointues et complémentaires qui font ça. Mais on ne va pas jusqu'à une spécialisation extrême. Lui, il est spécialiste des médias, lui, il est spécialiste du bancaire, et ainsi de suite. Même si certains ont une appétence plus particulière pour les systèmes industriels ou pour les systèmes bureautiques. Il y en a qui sont plus Windows, d'autres qui sont plus Linux. Bon, on a des formes de spécialisation, mais il ne faut pas aller jusqu'au temps moderne, avoir le spécialiste du Blonde 12 et celui du Blonde 13. Ça, ce serait inefficace, probablement.
D'accord, merci.
Si les attaquants laissent des traces, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais attrapés, non ? Quand ils ne veulent pas laisser de traces, ils passent par des satellites, et à ce moment-là...
On a clairement des attaquants qui sont plus ou moins habiles. De fait, aujourd'hui, ils laissent des traces. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sait les attraper, qu'on sait qui c'est, ou qu'on sait précisément remonter à l'origine, mais c'est important au moins d'avoir de comprendre comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour s'en protéger, pour aller voir chez les autres si par hasard on n'a pas le même genre d'attaque en train de se produire. Dans le cas de TV5, c'était quand même important d'aller voir si dans les autres médias, TF1, France 2 et ainsi de suite, il ne se passait pas exactement la même chose. Ça aurait pu être le cas, donc on a eu une campagne comme ça de recherche. Et de manière plus générale d'ailleurs, si on demande aux opérateurs de nous notifier leurs incidents, c'est pas pour savoir c'est pas la curiosité malsaine. C'est bien pour être capable, potentiellement de manière totalement anonyme d'ailleurs, d'aller vérifier chez les autres s'il ne se produit pas exactement la même attaque au même moment. Après, dans le fond de ta question, il peut y avoir est-ce que finalement on voit toutes les attaques et tout ça ? La réponse est non, très probablement. Il y a probablement des attaquants qui sont suffisamment habiles pour se masquer complètement et pour cacher toutes leurs traces. Globalement, moi les experts me disent plutôt des traces, il y en a toujours, elles sont plus ou moins dures à trouver, elles sont plus ou moins. Voyante, mais...
Non, sur le long terme, tout finit par se savoir. Ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a déjà un exemple d'un vrai attaquant qui s'est fait arrêter ? Je ne parle pas d'un Anonymous qui fait un DDoS sur un site d'une mairie, mais un cas d'investigation, je pense par exemple au FBI qui a lancé des mandats d'arrêt contre des officiers d'armée chinoise, aucun n'a été arrêté jusqu'à présent. Est-ce qu'on a un quick win à montrer en exemple sur le truc ?
On a peu de cas. C'est vrai que les gens qui se font attraper, c'est ceux qui ont l'imprudence, quelque part, d'être assez voyants, et puis de très souvent de mener l'attaque contre une cible du pays où ils sont eux-mêmes. Donc ça c'est prendre des risques. Je ne veux pas donner de conseils aux attaquants, hein, mais ça c'est pas une bonne idée.
Vous écoutez bien, on a un conseil, ne faites jamais ça.
Non, mais c'est vrai que la question de l'entraide judiciaire est une vraie question de fond.
Déjà, de travailler de manière collaborative avec des services ou des équivalents étrangers, ça se développe. Ça ne doit pas être simple, ça.
Non, ça, il ne faut pas être naïf, ce n'est pas simple, ça se développe.
C'est comme sur Interpol, je me rappelle.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, globalement, la coopération internationale est compliquée, un peu à tous les niveaux. Je le vois au niveau de l'ANSSI. Donc nous, on n'est pas en charge des enquêtes de police et de l'aspect judiciaire. On est plus en soutien technique pour faire ça. Mais quand on parle avec nos grands alliés, je ne les cite pas, mais vous les connaissez tous, nos grands alliés, on sait très bien qu'ils nous écoutent également. Donc, et ce sont les mêmes services qui font l'attaque et la défense.
Vous parlez des Allemands ?
Je parle évidemment. Ah oui, donc, il y a un vrai problème. Ouais, il y a un vrai problème potentiellement avec les agences anglo-saxonnes où la cybersécurité a été confiée aux services de renseignement. Donc ça veut dire que quand on parle à nos homologues, on parle à des services de renseignement.
Et c'est pas une faiblesse ça pour la France d'avoir bien deux services scindés, un pour la défense, un pour l'attaque, par rapport à une force entre guillemets unifiée en face.
Donc ça c'est un grand débat. Ce débat on l'a eu. Et je pense qu'on continue, enfin, c'est pas gravé dans le marbre, ouais. Mais on a pesé deux choses. D'un côté, l'intérêt d'avoir toutes les compétences réunies pour avoir une force de frappe peut-être plus importante, et de l'autre, avoir une séparation très claire des missions, de manière à éviter d'avoir une sorte de confusion justement dans ces missions et des conflits d'intérêts. On voit que nos amis anglo-saxons, ils ont des conflits d'intérêts très souvent. Donc nous, on n'a pas de conflits d'intérêts, on sait clairement quelles sont nos missions, et quand les gens nous voient arriver, je prends l'exemple de TV5, T5 c'est un média, faire rentrer un service de renseignement c'est pas naturel, faire rentrer l'ANSSI ça leur a posé aucun problème, au contraire on était là pour les aider, il n'y avait aucun doute là-dessus et dans la tête de nos agents qui sont intervenus il n'y avait aucun doute non plus, donc c'est pour ça que nous on défend énormément ce modèle-là qui a le mérite d'être très clair, mais en même temps si les anglo-saxons ont fait le choix inverse, c'est quelque part, il y a de bonnes raisons à faire le choix inverse. Nous on est voilà, sur un modèle français, les Allemands ont un modèle relativement proche. Si on rentre dans les détails, le BSI, qui est notre homologue, dépend du ministère de l'Intérieur. Ça a des avantages, ça a également des inconvénients. Ils n'ont pas le côté interministériel que nous, on a. Et quelque part, voilà, si j'avais une carte blanche pour choisir où positionner l'ANSSI et quelle devrait être la mission de l'ANSSI, je pense que je ferais exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui nous semble être la solution la plus efficace dans un contexte français. Une fois encore, le contexte français, ce n'est pas le contexte américain, ce n'est pas le contexte chinois, et ainsi de suite.
Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de Länder et beaucoup plus d'autonomie.
C'est très compliqué. L'Allemagne, il n'y a pas forcément d'interministériel fort, il n'y a pas de premier ministre fort comme il y a en France. Les Länder sont responsables de beaucoup de questions de sécurité. Donc pourquoi la cybersécurité y échapperait, il y a un vrai débat pour eux. Et quand il s'agit de protéger les opérateurs d'importance vitale, donc eux aussi ont passé une loi, mais l'application est beaucoup plus complexe que chez nous. Déjà, c'est pas simple chez nous, il faut être honnête, mais chez eux, c'est encore bien plus complexe.
Et si vous devriez dire quels sont les pays qui sont les plus matures dans le domaine, au niveau européen, quels pays vous citeriez ?
Bon, c'est pareil, il ne faut pas stigmatiser, mais globalement, voilà. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, on a les trois pays de tête, on va dire. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un historique en termes de SSI dans ces trois pays. On protège depuis longtemps nos communications militaires, nos communications diplomatiques. Donc ça a créé des services du chiffre historiques, il y en a dans ces pays-là. Et il y a une industrie. C'est très très dur d'avoir une activité forte dans le domaine SSI si on n'a pas une industrie derrière pour promouvoir des produits, des services de sécurité. Voilà. Donc ça crée quelques pays qui sont en tête. Après, il y a des pays, alors pour le coup je ne les citerai pas, mais qui ont complètement manqué le sujet et qui n'ont pas d'agence, qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont rien du tout. Donc qui sont complètement dépendants quelque part des offres étrangères et de tout ce qu'on peut leur vendre, parfois de manière totalement inefficace. Et puis il y a l'Europe. L'Europe en elle-même, qui est un véritable sujet. On a besoin d'avoir une vision européenne de la cybersécurité, même égoïstement si on veut protéger la France, parce que nos attaquants, ils sont pas bêtes, hein, ils attaquent là où c'est faible. Par contre, nos réseaux, eux, ne s'arrêtent pas aux frontières, que ce soit en termes étatiques, mais surtout en termes d'industrie. Aujourd'hui, nos grosses sociétés, elles sont rarement uniquement françaises. Donc les réseaux sont déjà multinationaux, et il faut qu'on arrive à protéger les réseaux dans leur ensemble. Donc l'Europe, c'est un vrai sujet. L'Europe s'est emparée du sujet de ça avec la directive qu'on appelle Nice sur la sécurité des réseaux, une directive qui est toujours en cours de négociation, sur laquelle la France a quand même beaucoup poussé, de manière, dans les grandes lignes, à s'assurer que rapidement on va avoir non pas une Europe qui va faire la sécurité de l'Europe, mais bien un réseau d'agences qui va être capable de travailler ensemble de manière la plus efficace possible. Et si on veut faire ça, j'ouvre juste une parenthèse. Les questions de sécurité, elles touchent à la souveraineté nationale. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec les autres pays d'Europe, très clairement. Et en même temps, il y a des sujets qui sont complètement transverses. Donc ce réseau d'agences, c'est ce qui nous semble le plus efficace pour avoir un travail coopératif, mais en même temps, une tutelle globale, ce serait inefficace. Voilà. Donc c'est ça qu'on a mis dans la directive Nice. L'idée d'identifier comme priorité les infrastructures critiques, donc ce que nous, on a déjà fait par la loi avec les opérateurs d'importance vitale. L'idée de pas forcément de pousser tout de suite des règles imposées, comme on l'a déjà fait nous, mais ce sera à mon avis le coup d'après, très probablement. d'imposer la notification d'incident, c'est fondamental, la notification d'incident, même si ça doit rester confidentiel ensuite, c'est ça un petit peu le paradoxe. On a besoin de savoir qui est attaqué, encourager la coopération entre les pays, encourager le développement d'une industrie à l'échelle européenne. On a une question de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté numérique actuellement, avec tous les débats qu'on peut avoir sur les plateformes numériques, sur tout ça. On a besoin, si on veut être fort en Europe, on a besoin de pouvoir faire par nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit utiliser que ça, mais au minimum, on doit avoir une confiance dans certaines des briques.
Et en termes de collaboration, au-delà de l'échange d'informations, ce que j'entends, est-ce qu'il y a un échange de savoir-faire, de personnes ? Est-ce qu'il y a des personnes du BSI allemand qui viennent travailler sur des dossiers en France et vice-versa ?
On a
ça,
des coopérations.
Ça va jusqu'où, en fait ?
On a des coopérations. Alors, des échanges de personnes, c'est compliqué.
D'accord.
Surtout pour des questions logistiques. Et parce que intégrer, on le fait ponctuellement, mais intégrer des personnes qui seraient là en permanence, ça nous pose des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas montrer même aux Allemands.
D'accord.
Très clairement. Donc là, la segmentation serait un peu complexe. Non, on est plutôt sur de la coopération sur des thématiques. Avec des échanges entre experts, des trucs assez classiques, finalement. Et ça marche très bien dans certains domaines techniques, très clairement. On est sur de l'échange d'informations, parfois de l'information extrêmement sensible. On ne soupçonne pas à quel point c'est important d'être capable de s'échanger ça. Alors, on ne se dit pas tout, hein, une fois encore, mais très souvent, on a quand même des ennemis communs. Et donc, lutter ensemble contre ces ennemis communs, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Donc, on pousse vraiment cette coopération, y compris sur des niveaux de secret qui sont très élevés.
Ça, est-ce qu'il faut vraiment mettre un secret sur les IOC ? Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on reproche à l'ANSSI, c'est de tamponner tout ce qui sort de l'ANSSI. Ouais. Et à contrario, quand on voit les bases d'informations, enfin, je ne sais pas, une initiative au Luxembourg par exemple, mais il y a des bases comme Team Camry, Shadow Server et autres, Virus Total. Enfin, aujourd'hui, la threat intelligence, on peut l'avoir parfois gratuitement, parfois en payant, mais sans classification à l'extérieur. Donc, est-ce que ça fait vraiment du sens de mettre des tampons sur les IOC et d'exiger des niveaux de labellisation très importants sur les prestataires pour une information qui, finalement, sert juste à comprendre le passé, mais qui ne va pas prédire le futur ? Elle est déjà périmée au moment où on l'obtient.
Non, c'est une remarque. On a un vrai débat autour de ça. On est conscient du fait qu'on part d'une situation où on est trop muet. On ne communique pas assez. On est très prudent. On est extrêmement prudent. Sans rentrer dans les détails, on a parfois des raisons de l'être, parce qu'on a des exemples qui nous poussent à la prudence, je vais revenir là-dessus. Mais c'est vrai que quelque part, on demande de nous notifier les incidents, ce que l'on doit moralement en retour, et si on veut être efficace, ce qu'on doit en retour, c'est de pousser de l'information sur la menace réelle telle qu'elle. Après, il faut bien voir qu'il y a toutes les signatures et tout ça qui sont déjà publiques, donc ça, nous on a un petit peu de réticence à pousser des choses qui sont déjà disponibles ailleurs. Mais peut-être qu'il faut qu'on le fasse. C'est la question du rôle du CERT-FR, quelque part. Est-ce que le CERT, au sein de l'ANSSI, il a pour rôle de repousser des choses qui existent déjà ? Peut-être que ça aiderait certains de nos clients à regarder maintenant la concurrence, entre guillemets, déloyale qu'on pourrait faire vis-à-vis de CERT privé en faisant ça. L'idée, c'est pas de tuer les CERT privés, hein. Donc il faut faire attention à ça. Et à l'autre extrême, on a l'information qui est ultra sensible. Alors certaines des informations, pour des raisons administratif presque. On ne peut pas les donner parce qu'elles nous sont données par des partenaires français ou étrangers, par des services de renseignement parfois, avec des tampons très secrets en disant vous le redonnez à personne. Bon, bah, on respecte ce que nous demandent nos sources. Et puis il y a des fois où les signatures en question, quand on se dit, ça n'explique pas que le passé, ça explique parfois le futur. Et j'ai des cas où des trucs qui ont été connus après, qui ont été révélés après, eh bien on les connaissait avant. Et ça nous a permis de détecter les attaquants là où ils étaient. Sans qu'ils sachent qu'on était capable de les détecter. C'est un peu cryptique parce que je ne veux pas rentrer dans précisément dans les exemples, mais face à des attaquants très forts qu'on pourra deviner, eh bien, on était capable de les détecter avant que ce soit dans certaines révélations. Et ça, malheureusement, si on a pu le faire, c'est parce qu'on a gardé cet avantage stratégique par rapport à des attaquants. Si on prévient les attaquants qu'on sait les détecter, on sait qu'ils ont une capacité à redévelopper de nouveaux outils, à muter, qui fait qu'on va perdre l'avantage, le petit avantage qu'on avait réussi à obtenir. Voilà. C'est pour vraiment l'autre extrême. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur, et très probablement on a encore des progrès à faire pour déplacer le curseur de manière à dire plus. Et quelque part, plus les prestataires seront de confiance et qualifiés et surtout capables de conserver l'information relativement confidentielle, et plus on sera capable de leur en donner. Et c'est pour ça qu'on pousse à développer des sondes un peu robustes. D'un point de vue conservation de l'information, des prestataires un peu robustes également en termes de capacité à gérer du secret, et ainsi de suite. Il y a une logique dans tout ça, quelque part.
Oui, mais la gestion du secret, ça... je ne vais pas dire que c'est un échec, mais un secret, c'est quelque chose qu'on dit qu'à une seule personne à la fois, paraît-il. le problème du secret, il y a eu des listes privées, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelait, Vendor Security, ou des choses comme ça, où les vendeurs s'échangeaient entre eux des failles dans leurs produits. Par exemple, tel noyau Linux a une faille, il faut patcher toutes les appliances. Le problème, c'est que les attaquants avaient compromis le forum depuis 6 mois et qu'ils avaient accès avant tout le monde à cette faille. Et donc, finalement, à la fin, la conclusion de la communauté, c'est s'il y a une faille et qu'elle est activement exploitée, il faut immédiatement que tout le monde soit au courant. Prenons l'exemple des médias, par exemple. Les IOC TV5, elles ont donné un certain nombre de médias qui sont venus à la conférence de presse, mais quid de l'agence, je sais pas, du journal local du sud de la France ou ailleurs, ou de la TV, je sais pas, il y a TV Montmartre, je suis pas sûr qu'ils aient eu accès aux IOC de TV5, pourtant potentiellement c'est un média. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas donner cette information au plus grand nombre, en sachant que les gens qui en ont besoin, comme ça, y auront accès sans avoir besoin de passer par des tracasseries administratives, du chiffrement acide, des trucs comme ça, quoi. Et d'autre part, le rôle du CERT initialement, c'est quand même la gestion de vulnérabilité. Les histoires d'IOC et autres, c'est venu après avec un domaine qu'on a maintenant on appelle la Threat Intelligence, mais je ne sais pas si c'est un mot un peu trop buzzword. Mais au départ, la gestion, le CERT, enfin, les premiers CERT ont été créés pour gérer les failles dans les logiciels. Et il n'est pas du tout dit qu'un CERT doit aussi gérer les IOC. C'est une mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes, quoi. Enfin,
le débat est complexe. Hein. L'exemple de TV5 est assez éloquent. Le problème, c'est que dans ce qu'on a demandé à rechercher aux médias, il y a des signatures qui sont déjà publiques. Et connaissant ces signatures, on sait à qui c'est attribué par les éditeurs de sécurité. Et notre rôle à nous, c'est pas dire attention, c'est potentiellement tel pays ou tel groupe d'attaquants, parce qu'on ne sait pas. C'est très gênant, hein, quand même, en termes de com. Même si, in fine, on sait très bien que quand on donne des signatures à la moitié des médias français, on sait que ça finira par fuiter. Enfin, on n'est pas naïf non plus. Enfin, là, pour moi, ce document-là, il n'était pas secret. Hein. Ce serait très naïf. Non, à l'inverse, on a des choses qui... je reviens sur l'exemple extrême que je mentionnais tout à l'heure, des trucs qui sont très sensibles. C'est difficile pour nous de ne pas perdre l'avantage stratégique que l'on a avec cette information en la diffusant de manière trop large. Donc la diffuser un peu plus probablement, je sais pas trop, c'est pas simple. Je défends vraiment les gens de chez moi qui ont certaines réticences parce qu'ils ont peur quelque part d'être moins efficaces. Déjà que quand on regarde l'avantage entre l'attaquant et le défenseur, c'est quand même très, très asymétrique tout ça. Quand on peut avoir un petit avantage, s'en priver, c'est quand même très, très difficile. Après, 99% probablement des vulnérabilités, des signatures et tout ça sont de nature publique, probablement. Mais justement, quand ils sont publics, nous, on a un petit peu d'état d'âme à jouer simplement la boîte aux lettres ou le réémetteur. Hein, c'est...
Mais alors, du coup, sur du très sensible, ça fait pas vraiment de sens de partager avec le privé, parce que demain, rien n'empêche un industriel français d'être acheté par un Américain, par exemple.
Donc, on est quand même sur des temps...
D'accord. C'est une valeur que pendant quelques jours ou quelques semaines.
Ouais, voilà, on peut quand même trouver un équilibre.
Alors, on va changer de sujet, on va passer sur le recrutement.
Oui.
Dans le domaine de l'informatique, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité, il y a beaucoup d'autodidactes. Est-ce que l'ANSSI a la capacité de recruter ces gens qui sont passionnés, qui sont techniquement très compétents ?
Alors, je vais répondre à la question, mais je commence par quelques chiffres. Donc, on était 100 en 2009 à la création de l'agence. On est 450 aujourd'hui. Et avec un manque total de modestie, mon objectif, c'est d'avoir des gens qui sont excellents. Parce que c'est ça qui fait la plus-value de l'agence, quelque part. C'est quand un expert d'un labo ou un expert sur un cas opérationnel intervient, il ne faut pas commencer à avoir un débat pour savoir si ce qu'il dit, c'est vrai, c'est faux. C'est... Non, il faut vraiment avoir des gens qui font référence. Donc on a besoin d'avoir des gens très forts. Donc on est très sélectif sur le recrutement que l'on fait. Après, sélectif, ça ne veut pas dire prendre systématiquement les gens qui ont les plus beaux diplômes. Je suis d'accord qu'on est sur un sujet où il y a des autodidactes.
On est en France quand même, c'est le diplôme qui prévaut.
J'y viens. Mais non, donc il y a en effet des talents dont le talent n'est pas forcément reflété par le niveau du diplôme dans les grilles officielles de l'administration. Après, il faut bien garder à l'esprit que l'ANSSI, même si j'ai l'habitude de dire qu'au sein des services du Premier ministre, c'est quand même une sorte d'ovni, en termes de taille, en termes de profil et ainsi de suite, en termes de statut, ça reste une administration. Et dans une administration, il y a des règles, ce qui fait que un jeune qui sort d'école, le salaire qu'on peut lui proposer est dans une fourchette en fonction de son école, en fonction de ses diplômes. Voilà, ça c'est le système français, je pense que dans les autres pays c'est pareil. Dans le privé, au moins dans les grosses boîtes, ça ressemble beaucoup aussi. Il y a peut-être un peu plus de souplesse dans les boîtes qui sont plus petites, mais mais bon, dans les grosses boîtes, c'est pareil. Et donc, tout l'enjeu que j'ai, c'est d'expliquer à l'administration qu'un tel, il est vraiment intéressant, qu'il faut vraiment pousser le curseur au maximum, mais il n'y a pas de mystère. Quelqu'un qui arrive absolument sans diplôme, qui n'a pas le BEPC, on ne le paiera pas comme un ingénieur sorti des meilleures écoles.
Même s'il a 10, 15 ans d'expérience, mais et
vous pouvez déjà
expert vraiment dans son domaine.
Alors là, je parle des jeunes sortis d'école.
Ah, pardon.
Donc, qui sont pas d'école, okay. ou pas d'école, justement. Donc là, j'ai un vrai problème. Okay. Le deuxième problème que j'ai, c'est les seniors. Qu'ils soient très diplômés ou pas.
D'accord.
Malheureusement, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience reconnue dans le privé, il est à des niveaux de salaire que l'administration ne sait pas offrir. Et ça, bah, voilà, je peux aller voir le Premier ministre, ça ne changera rien. Malheureusement, on a un certain cadrage. Ce qu'on arrive à obtenir au niveau de l'ANSSI, c'est une souplesse que je ne connais pas ailleurs dans les autres services de l'État. J'en connais plusieurs. On a quand même une certaine souplesse. Malheureusement, pour être honnête, parfois, on perd des gens pour peu. Et puis parfois, on les perd pour beaucoup aussi, parce qu'on est absolument incapable de s'aligner avec certains acteurs du privé sur ce sujet-là. Donc, pour répondre, on a un contexte, on a des règles qui s'appliquent à nous comme à n'importe quelle administration. On est plutôt favorisé en termes d'application de ces règles parce qu'on a affaire à des gens qui comprennent ce qu'on fait, qui comprennent qu'on est dans une situation différente de certaines administrations classiques, mais en même temps, on peut pas faire n'importe quoi. Et même si je devais provoquer, faire n'importe quoi, ça pose des problèmes aussi, parce que il y a une question d'équité également entre les agents. Si demain, il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup, que je recrute à un salaire trois fois supérieur aux autres, bah c'est tous les autres qui vont dire « bah oui, mais c'est pas juste ». Donc, ces grilles, on peut les fustiger un peu, mais elles ne sont pas là totalement par hasard non plus.
Mais l'objectif, c'est de fidéliser les gens ou c'est au contraire de les envoyer dans le privé pour qu'ils essaiment ou qu'ils aillent dans les autres administrations
Question directe, donc la réponse sera directe. Moi, l'intérêt, c'est que les gens restent suffisamment longtemps. En gros, quelqu'un qui vient chez nous, qui reste 2 ans, 3 ans et qui repart, même s'il est bon, quelque part, l'énergie qu'on aura mis à le former, le temps qu'il aura pris à comprendre comment ça fonctionne, n'aura pas été rentabilisé.
C'est pas suffisant.
Ouais, c'est pas suffisant.
Les compétences, c'est pas que les compétences des individus, c'est aussi les dynamiques qui se mettent en place, des groupes de
exactement.
Travail.
Exactement.
Le patrimoine informationnel qu'on développe, les solutions, les
c'est
process.
Exactement ça.
Et enfin, donc, comment vous gérez ça?
Il faut fidéliser les gens. Il faut que les gens restent suffisamment longtemps. Après, on sait qu'on est sur un métier où il y a peu de recul. Et où on ne vieillit pas forcément bien. Ouais. Donc, globalement, et puis même au-delà de bien vieillir.
Oh zut, c'est une mauvaise nouvelle ça.
Non, mais tu veux dire que ça se dégrade vite, c'est ça? Mais non, il faut laisser la capacité d'évoluer quelque part. Il y a peut-être des gens de chez nous aujourd'hui qui ont 25 ans, qui sont d'excellents pentesters, et dans 40 ans, ils seront toujours d'excellents pentesters, je leur souhaite. J'en vois surtout beaucoup qui, à un moment, au début, quand ils arrivent, ils n'imaginent pas faire autre chose que de la technique, ou la technique dans laquelle ils sont déjà spécialisés, et puis au bout de 5 ans, 6 ans, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Donc moi, j'ai des gens qui étaient plutôt du côté opérationnel, et puis ils disaient, tiens, les relations internationales, un truc auquel j'aurais pas du tout pensé au début, c'est intéressant ces relations internationales, il y a plus d'échanges, de com, et tout ça, on va jouer à autre chose, et puis jouer du pays, au passage. Et puis il y en a qui veulent faire du management, alors qu'au départ, ils disent, être chef, c'est abominable, enfin, je serai jamais comme ces gens-là. Et en fait, au bout d'un moment, ils disent, finalement, c'est peut-être un nouveau défi pour moi. Et puis il y en a qui me disent, c'est bien ce qu'on fait là, mais moi, j'ai envie de faire des produits, par exemple, j'ai envie de mettre les mains dedans. Ça, c'est plutôt dans le privé, c'est plutôt chez les gens qui... Donc, il faut, aujourd'hui, c'est très dur quand même, enfin, je ne sais pas qui parmi vos auditeurs peut dire qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, enfin, on n'est plus dans ce genre de dynamique. Donc voilà, avoir une certaine souplesse, une certaine... quelque part des carrières variées, c'est très bien. Donc pour rester très concret, moi, que les gens restent, allez, 6 ans, 8 ans, ça me va très très bien. Voilà. Mais vous êtes capable de les garder plus longtemps?
Alors bien sûr.
Enfin voilà.
Non. Oui non. Je veux pas faire de cours d'administratif, mais on a des gens qui sont sous contrat, que l'on passe, donc qu'on embauche en CDD, ça fait partie également des choses qu'on nous impose, qu'on en passe en CDI, en théorie au bout de 6 ans, on essaye de le faire un peu avant. Mais aujourd'hui, on arrive à passer beaucoup de personnes en CDI. Donc la question est pas vraiment. C'est mieux. Non, c'est mieux, c'est parce mieux. Que normalement...
Là, je pensais à la Défense, DGA, juste comme ça.
Oui,
c'est
le DGA fait pareil, le voilà. DGA fait pareil, exactement. C'est, non, c'est très très proche. Mais après, il faut bien voir que, au-delà de l'ANSSI ou de l'État, des administrations seules, on est quand même dans un contexte, dans un écosystème. Et moi, avoir des gens qui ont fait un passage intéressant à l'ANSSI, qui ensuite vont dans le privé, vont porter des messages, vont créer des liens et tout ça, c'est également extrêmement positif. Donc, l'idée d'avoir des gens qui passent par chez nous qui ensuite s'en vont, c'est pas un drame non plus. C'est pas... Bon. J'ai la chance aujourd'hui, quelqu'un qui veut rester et qu'on veut garder, ça marche.
Bon. Vous avez beaucoup de turnover par tous les ans ?
Il y en a. C'est quelque chose qui est très surveillé. C'est le turnover augmente pour des raisons mécaniques parce que on commence à avoir des gens qui ont fait maintenant créé en 2009, on est en 2015, donc des gens qui arrivent autour de 6 ans, on commence à en avoir pas mal. Il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent avoir autre chose, donc ça augmente un petit peu le turnover. La seule chose qu'il faut à tout prix qu'on évite, c'est que les gens partent pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils ne sentent plus bien chez nous, parce qu'ils se sentent maltraités, parce que le métier est devenu inintéressant. Finalement, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à vendre à nos gars ? C'est l'intérêt du boulot. Des gens qui veulent à tout prix gagner de l'argent, c'est pas chez nous qu'ils vont venir. Enfin, ce serait... Enfin, si, ils peuvent essayer, mais ils vont être déçus. On vient pas ici pour ça. Si on vient à l'ANSSI, c'est pour un boulot techniquement intéressant et pour voir des choses qu'on verra pas ailleurs.
Oui, c'est sûr, mais qu'ils aillent chez Google...
Par exemple. Non, mais voilà, donc c'est ça qu'on a à leur offrir. Si maintenant, là on est très vigilant, s'il y en a des gens qui viennent nous dire ben, moi je me sens plus bien au sein de l'ANSSI parce que voilà, j'étais venu pour faire quelque chose et j'arrive plus à le faire, en gros, c'est, voilà, ça c'est un message qui est extrêmement fort et qui nécessite une réaction forte. Donc on est vraiment à l'écoute de ce genre de choses, j'espère en tout cas, de manière à éviter de tomber dans ce genre de travers.
D'accord, merci.
Par contre, Jeff, je me permets de te corriger, c'est Vas-y. Le taux d'attrition en français.
Ah, excuse-moi, Nicolas. Merci. Nous sommes exacts sur les mots sur le podcast de Limite Sécu.
On va faire honneur
à l'institution. Alors, dans les autres sujets qu'on voulait évoquer...
Oui, parce qu'on a commencé à en parler, mine de rien, tout à l'heure, en présentation, pour parler de TV5. Je vais vous dire, TV5, c'est pas un ministère, c'est pas...
C'est pas un OIB.
C'est pas un OIB. Enfin, je sais pas. Ouais. Secret, là, les
OIB. Ah ouais, on n'a pas le droit de le dire.
Voilà. On s'attendait plus ou moins effectivement que l'ANSSI réagisse, forcément. Mais ça peut pas. C'est votre mission.
La question s'est posée.
Pourquoi enfin,
pourquoi demain TV5 Monde et pas une autre société.
Télégramme de Brest. Demain, il y a DFC. L'ANSSI débarque dans les deux heures.
Donc. Nos priorités, historiquement, les administrations. Donc, une administration aujourd'hui se fait attaquer, on intervient. Ça, c'est très clair. On fait plus que d'intervenir après, puisqu'on est également dans la phase de prévention et de détection. Donc là, on a une chaîne complète qui est mise en place. Depuis la loi de décembre 2013, avec les opérateurs d'importance vitale, ils sont dans notre scope. Donc on fait avant tout de la prévention, mais dans l'engagement moral qu'on a avec eux, et de toute manière, c'est déjà le cas, s'ils ont une attaque forte, on y va.
Et puis le décret de mars, et puis bientôt.
Voilà, donc ça, c'est un truc qui est en place. Et de fait, l'assistance que l'on peut porter à certaines industries, que je ne citerai pas, est déjà en place, et est déjà important. Et se passe bien d'ailleurs, parce que parler avec, j'ouvre une parenthèse, mais parler avec quelqu'un qui n'a jamais été attaqué, c'est toujours très difficile. Parler avec quelqu'un qui s'est fait attaquer, et qui du coup voit ça de manière très concrète, c'est étonnamment plus facile, même si les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver. Bon voilà, je referme la parenthèse.
Pour la continuer cette parenthèse, est-ce que vous faites de la sensibilisation, justement ?
Énormément. Toute la question, c'est de réussir à toucher certains publics, certaines sociétés, certains... Et aujourd'hui, on est connu dans certains domaines. Il y en a d'autres, quand ils voient débarquer l'ANSSI, ils sont très surpris en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette agence ?» Donc ça, c'est très clair.
Je sais qu'il y a des tas de choses.
Il y a des exemples multiples et variés, on va dire. On a une question que, enfin, alors, on a une véritable politique de communication. On a un bureau com qui est fort, qui est armé pour justement être capable de porter nos messages dans des milieux extrêmement variés et jusqu'aux citoyens demain, puisque ça, c'est un axe de progrès très fort. Moi, je ne me mets pas de limite. En tout cas, je ne vais pas m'arrêter à une lecture stricte du décret qui crée l'ANSSI, parce que je pense que défendre les administrations, défendre les opérateurs, c'est important. Défendre l'industrie en général, y compris les PME, ce qui est vraiment probablement la première cible aujourd'hui en termes d'attaque et première conséquence économique, ça fait partie de nos missions. Donc il faut qu'on y travaille, très clairement. Et puis demain, défendre les citoyens, offrir une meilleure assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, comme on dit, ça fait partie des missions, alors de l'ANSSI, je ne sais pas, mais de l'État en général. Et si c'est des missions de l'État, l'ANSSI sera mouillé. C'est quelque chose, on a un rôle à jouer. Donc je ne me mets pas de limite à ce niveau-là. Donc du coup, on a rouvert une parenthèse, mais on a refermé. Oui, où est-ce qu'on intervient? Alors TV5, c'est un bon exemple.
C'est pas un ministère, c'est pas...
Eh bien, c'est très simple, c'est du cas par cas. Donc comment ça s'est passé pour TV5? Je me souviens très bien, c'était un mercredi soir, j'étais à un dîner mondain, je reçois un coup de fil de la personne de permanence qui faisait l'astreinte de direction, qui me dit, ben voilà, TV5, il y a un écran noir depuis une demi-heure.
Chef, on a un problème.
Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et si on y va,
comment
on y va? Donc là, ben voilà, c'est de l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui doit se faire très vite, d'ailleurs. TV5, c'est l'image de la France. C'est quelque chose qui... On sent bien qu'un écran noir, c'est la première fois que ça se produit. Ça va avoir de l'impact.
Oui, et puis la, il y a un contexte de la...
Exactement. Déjà, donc la réponse, c'est on met le paquet. D'accord. Le lendemain matin, quand j'ai vu qu'il y avait trois ministres chez TV5, ça a confirmé que c'était probablement la bonne idée. Voilà. Mais la question n'est pas triviale. Et même en interne, moi, j'ai des agents qui m'ont dit « Mais pourquoi on va chez TV5 alors que, bah, finalement, s'il y a un écran noir chez TV5, bah, il n'y a pas de dommage sur les personnes, il n'y a pas de dommage direct. Voilà, c'est pas... Donc, c'était pas évident pour tout le monde que c'était forcément une priorité. Après, il faut bien voir aussi que dans les arbitrages que l'on rend, il y a l'état de nos ressources. Voilà. Si on a déjà 2-3 affaires graves en cours, eh ben, malheureusement, on doit faire des priorités. Voilà. Quand les ressources sont disponibles, on a plus de facilité à les engager sur un terrain. Voilà. C'est de la gestion. Et après, pour aller plus loin, il y a une évidence, c'est que l'ANSSI ne pourra pas tout en termes de réaction. L'État ne pourra pas tout. On a absolument besoin d'avoir des prestataires privés qui sont forts dans ce domaine-là. Mais c'est impossible. Mécaniquement,
stériliser comme ça.
On peut être 500, on peut être 1000, on peut être 2000, on ne saura pas faire. Et puis, ça, c'est pas bon en termes de dynamique. Donc, il faut impérativement qu'on développe ces prestataires. Ces prestataires, ils doivent être compétents et de confiance. Ce sont deux notions vraiment bien différentes. Et là, on réintervient. Parce que comment un client fait pour savoir qu'un prestataire est compétent et de confiance? Bah, c'est pas marqué sur le site web. Alors, si, c'est marqué, justement.
Mais en fait, confiance.
Bien sûr. On est les meilleurs du monde.
Il y a un petit logo.
Faites-nous confiance.
Mais c'est normal.
AES 250.
Avec un
cadavre.
Donc voilà. Donc tout le monde est confiance et tout le monde est le meilleur, tout le monde est le plus beau, et ainsi de suite. Notre rôle, tel qu'on le conçoit, c'est, en tant qu'agence neutre, service de l'État, c'est de dire, ben voilà, parmi les gens qui ont candidaté, entre guillemets, pour être prestataire de confiance, eh bien, ceux-là, on peut vous garantir qu'ils le sont. Et ça, on fait ça pas à la tête du client, il y a un processus d'évaluation qui est lourd, il y a un référentiel qui est public, on veut que ce soit le plus open possible, hein, faut pas que ce soit obscur, ces choses-là. Et ensuite, parmi cette liste, eh bien, charge au client d'aller trouver le prestataire privé avec qui ils vont faire affaire. Et là, nous, il faut à tout prix qu'on évite, par contre, de mettre les mains dedans, de ne pas rentrer dans les négociations commerciales et des choses comme ça. Mais notre rôle, c'est vraiment d'identifier les gens compétents. Donc ça, à la limite, ça peut...
Créer le catalogue.
C'est pas... En pratique, c'est sur notre site web. Hein, c'est
oui,
sur notre
site
web.
Bon, voilà. Sur le site, on voit les...
Et ça, aujourd'hui, on l'a fait pour les auditeurs, hein, pour les PACI, ce qu'on appelle les PACI. On est en train de faire pour ceux qui font de la détection d'incidents. Ce que je dis toujours aux OIV, c'est n'allez pas vous inventer expert en détection d'incidents, à moins de, sauf quelques cas particuliers. Mais, c'est un métier à part entière, donc n'allez pas mettre les mains là-dedans, il faut passer par un prestataire. Pareil pour la réaction d'incident. Réaction d'incident, ce que je leur dis toujours, c'est ne faites pas confiance à votre service informatique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout effacer, il va changer tous les mots de passe, il va effacer y compris les logs, hein, ça c'est en priorité, il va tout réinstaller, et dans la foulée, vous allez vous faire réattaquer. L'attaquant, il est rentré une fois, il va rentrer une deuxième fois, c'est évident. Donc il faut des spécialistes, là encore, de la réaction d'incident, que ce soit dans la réaction immédiate ou dans la réaction sur le plus long terme pour la reconstruction. Voilà. Donc tout ça, c'est des métiers, très clairement. Et puis on va même un peu plus loin, puisqu'on est en train de faire le même travail pour les prestataires de cloud. Alors là, on est aux marges, hein, de nos missions. Mais si nous, on ne le fait pas, je ne sais pas trop qui va le faire. Donc on prend ça à notre charge. L'idée, c'est justement de sortir du discours anxiogène « le cloud, c'est dangereux ». Même si on reste convaincu que le cloud c'est dangereux, mais c'est plutôt dire, ok, vous avez des besoins d'infogérance, des choses comme ça, vers qui aller? Voilà. Pour séparer, parce que même, alors, et là c'est pas forcément, on parle pas uniquement de prestataires français, hein, y a des prestataires étrangers, mais il y a plus ou moins mauvais quand même dans les prestataires de cloud, c'est une évidence. Et il faut qu'on soit capable de guider nos clients, comme on les appelle, vers des solutions qui sont adaptées à leurs besoins en termes de sécurité.
Là, c'est donc on parle de la labellisation des personnes et des entreprises. De la labellisation des logiciels, parce que ça c'est une autre activité dans laquelle l'ANSSI s'est engagée.
On fait ça depuis longtemps, hein, la qualification des produits de manière générale. Alors ça marche très bien dans certains domaines. typiquement qualifier des cartes à puces, qualifier des produits matériels, c'est un truc qu'on sait bien faire. C'est un truc qu'on fait également pour les très hauts niveaux de sécurité, pour protéger les classifiés de défense. On est sur des temps relativement longs.
C'est historique.
Et du coup, la labellisation de prestataire est copiée là-dessus. Alors c'est marrant parce que c'est presque plus facile pour les services et les prestataires que pour les produits. On connaît les limites du système. On sait que pour les produits à cycle de vie très rapide, typiquement les produits logiciels, eh bien, il y a un décalage entre les cycles d'évaluation et les évolutions de part des logiciels. Il ne faut pas non plus trop caricaturer parce que quand la version 17 était bonne, quand la version 18 était bonne, quand la version 19 était bonne, en général, la version 20 n'est pas totalement mauvaise. Enfin, même si on peut évidemment avoir des cas. Donc, ce n'est pas totalement incompatible ces choses-là. On a des mécanismes, bon, ça va devenir très technique, de surveillance qui font que quand on passe d'une version à une autre, on n'est pas obligé de tout refaire. Et on cherche à avoir quelque chose qui colle le plus possible au cycle de vie. Bon, pour le logiciel, c'est évidemment plus compliqué que pour le matériel.
Alors, l'ANSI s'est aventuré même plus loin en allant dans le métier d'édition logicielle. Je pense à des projets comme le défi sexy, système d'exploitation cloisonné et sécurisé pour Internet auquel j'ai participé, SecDroid, Clip, etc. On trouve des projets de l'ANSI sur GitHub ou sur Adulact. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à grandir? Je sais que l'ANSI publie des outils d'investigation régulièrement dans les comptes de sécurité.
Est-ce que c'est... Alors, on n'est pas éditeur, on n'est pas industriel, on n'a pas vocation à le devenir. Par moment, on fait du développement. Alors, on fait du développement interne pour nos propres équipes. Voilà, ce sont nos gars qui développent leurs outils. Et dans certains cas, tu mentionnes, qui sont présentés dans les conférences, finalement, ces outils, on peut les mettre dans la communauté ouverte. Ça ne nous fragilise pas. Et si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux, finalement. Le seul risque, quelque part, ce serait de faire de la concurrence déloyale à des gens qui cherchent à développer et qui ont besoin d'en vivre. Parce que nous, on est payés par ailleurs, hein, quelque part. Donc ça, c'est la seule limite. On contribue à pas mal de projets libres, soit des agents à titre personnel, mais toujours avec une certaine autorisation, soit au nom de l'ANSI. Donc on a différentes contributions qui sont suivies. Et puis on a des développements internes parce que pour développer certains produits, pour spécifier plutôt le développement de certains produits, c'est très très dur tant qu'on n'a pas mis les mains dedans. Voilà. Quand on est un pur esprit, spécifier le développement d'un OS un peu sécurisé, il y a quand même de grandes chances de tomber à côté de la plaque. Donc il n'y a rien de mieux que d'avoir des gens, des experts, qui mettent les mains dedans, qui développent par eux-mêmes. Par contre, avoir des maquettes, des prototypes, ou bien proposer des produits finis, industrialisés, utilisables par des clients, sont deux choses différentes. Et l'erreur qu'on ne doit pas commettre, c'est de se transformer en industriel, à gérer le service client, à gérer les patchs, à gérer le MCO, et ainsi de suite.
Oui, enfin, il y a quand même après la phase d'industrialisation qui, elle, jusqu'à
présent... Qui n'est pas notre job.
Problème, parce que le nombre de projets, ainsi ou autres, qui ont avorté aujourd'hui, est quand même assez important. Et finalement... Comment est-ce qu'on peut faire, parce que les industriels, enfin les clients finaux, ils sont en demande de solutions. Et comment est-ce qu'on peut faire pour leur apporter des solutions alors que ça fait quand même longtemps qu'on essaye et qu'il n'y a rien qui a vraiment pris, quoi. Qu'est-ce qui manque?
Des produits de sécurité, il y a quand même pas mal des produits de sécurité, mine de rien. Il faut continuer à remplir les étagères. Mais enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui veut sécuriser un réseau, et ainsi de suite. Bon, le coût des smartphones, c'est un peu plus compliqué, même si on a des solutions françaises qu'on a beaucoup poussées, qui marchent bien maintenant. On a eu beaucoup d'échanges avec eux, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, il y a des choses. C'est quasiment du co-développement aujourd'hui, tellement il y a une interaction. Vu que nous, on n'a pas vocation à devenir industriel, l'idée, c'est vraiment de soutenir une industrie compétente et de confiance. Donc, on a différentes approches, il y a de l'aide à la R&D, on est en relation étroite avec Bercy pour pousser justement ce genre de choses. La DGA, de son côté, fait également des dispositifs comme Rapid pour aider les petites structures, pour aider à la R&D. Alors, on peut toujours critiquer, hein, c'est vrai que c'est imparfait comme dispositif. Mais on est quand même une situation où on a un verre à moitié plein, alors que dans beaucoup de pays, il est totalement vide, le verre.
Enfin, quand on prend l'homme de la rue, on lui dit... Installer quelque chose de sécurisé, il va sur Internet, il trouve Redphone,
Silent Circle,
donc
aujourd'hui, notre cible, on fait, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais on fait par priorité. Les priorités, c'était les réseaux et les applications les plus sensibles. L'homme de la rue, il faudra le protéger. Et ça fait partie de. Mais aujourd'hui, on va le protéger déjà pas en lui expliquant les règles absolument essentielles. Attention, attention au mot de passe, attention aux clés USB, attention au phishing. Voilà, c'est ça. Déjà, quand il aura fait ça, ça ira mieux. Enfin, la foudre tombera à côté. Enfin, il sera pas sécurisé, mais ce sera, quoi, il sera moins facilement attaqué quand même.
Pareto, quoi. C'est si on peut faire.
Mais exactement. Mais malheureusement, la priorité aujourd'hui, ce sont des réseaux, des systèmes où il y a risque de mort d'homme, où il y a risque grave pour la nation, où il y a des pertes de compétitivité majeures. Enfin, aujourd'hui, on perd des contrats à des centaines de millions parce que c'est pas sécurisé. Oui. Aujourd'hui, dans le passé aussi. Mais plus ça va, plus on en perd. Parce que les commerciaux des grosses boîtes qui font de l'export, bah, ils utilisent n'importe quoi. Ceux-là, il faut les sécuriser en priorité par rapport à l'homme de la rue. Une fois encore, c'est abominable ce que je dis, parce que ça ne veut pas dire que l'homme de la rue, il mérite pas d'être sécurisé aussi. Mais si on doit faire des priorités, ben on le fait en termes d'impact des attaques contre les civils.
Du coup, il y avait une question. Vous avez des labos, vous avez des experts, vous avez une entreprise, une PME, un industriel qui aurait des trous dans la raquette pour développer un produit. Elle pourrait s'appuyer ou venir vous voir ou vous demander d'expertise sur des développements, des choses. Ça se fait, ça, ou pas? Vous proposez des...
On se parle. Toujours pas, il y a une question pour nous d'économie de nos moyens. Voilà. Donc on peut pas faire porte ouverte à tout. Moi, une idée, alors c'est un truc qui est pas en place, donc je peux faire le malin avec, mais une idée par exemple avec ces startups. On parle beaucoup d'objets connectés. Oui. La France a un écosystème remarquable qui pousse ce genre de choses. Ces objets connectés, quand on les met entre les mains de nos labos, il y en a pas pour longtemps. C'est évident. Donc, et ce qu'on se dit, c'est que quelque part, ça, si nous on sait le faire, d'autres sauront le faire rapidement, et ça va se retourner contre nous. Donc, ces gens qui développent, ils ont pas de connaissances en sécurité. Je suis persuadé qu'en les voyant une demi-journée, déjà, on multiplierait leur niveau. Alors, si le niveau c'est zéro, ça fait toujours zéro, mais on augmenterait si c'est de manière significative leur niveau, et au moins le fait qu'ils prennent en compte les choses. Ils savent très bien qu'il y a des briques publiques, enfin, tu n'es pas obligé de tout réinventer pour faire de la sécurité. Donc on pourrait, comme ça, avec un investissement très limité de notre part, les pousser à aller vers la sécurité sans les ralentir de manière monstrueuse. Donc dans un premier temps, je ne vais pas leur dire que c'est absolument fondamental de faire évaluer, qualifier vos produits au plus haut niveau, parce que là, on va les ralentir tellement qu'on va les tuer. C'est une évidence. Mais par contre, les initier à ces questions de sécurité et leur dire attention, il y a certaines communications là, bah, les chiffrer ce serait pas forcément très compliqué, un peu d'authentification ce serait pas délirant. Les pousser, en plus c'est des gens qui sont intelligents, déjà qui connaissent bien l'informatique en général.
Faire la différence avec d'autres produits. Donc,
Et sur le long terme, ce sera extrêmement gagnant parce que la sécurité, on en est persuadé, c'est un différenciant. Par contre, c'est pas le différenciant qu'on voit tout de suite. Non. C'est sur le long terme forcément que ça peut jouer.
Donc il ne faut pas se jeter sur la première version du dernier objet connecté commercialisé. En fait. C'est ce qu'on est en train de dire, parce que d'un point de vue sécurité, c'est pas aussi simple que ça.
Ça dépend de l'application. D'accord. On parle beaucoup des montres en ce moment. Les montres, elles sont géniales. Ils m'ont montré ça l'autre jour. Sur les montres connectées, il y a des micros, il y a parfois même des caméras, des choses comme ça. Dorénavant, dans les réunions où on parle de choses classifiées, on laisse, de même qu'on laisse les smartphones à l'entrée, maintenant on va laisser les montres à l'entrée. Voilà,
Les machines à café, il y a des modems GPS. Non, c'est vrai.
Hein, oui, mais bien sûr.
Elles marchaient plus.
Elles ont besoin
on
de
appelle
pas.
Le service comme
elles ont besoin
je
de
pas la marque et tout ça. C'est pas très gros comme machine. Ouais. Et on appelle. Oui, on sait. Il y a un défaut. On sait. Et en fait, on démonte. Il y a une carte SIM avec dedans.
Mais elles sont connectées. Les machines à café, elles ont besoin d'appeler pour dire qu'il n'y a plus de café.
Oui.
Donc il faut que le prestataire vienne remplir. Mais il y en a partout des trucs comme ça.
Il y a un UR. On peut mettre un micro.
Tu appelles de la machine directement. Hein? Tu appelles de la machine directement.
Bah oui. Tu fais double expresso et tu t'appelles le service.
T'as un livreur
pour dire.
Non mais voilà, notre rôle c'est à la fois de dire ces gens qui font des montres connectées, ils sont brillants. Quand on leur montre les menaces, ils comprennent tout de suite. Et quand on leur donne les pistes pour sécuriser, ils n'ont même pas besoin de nous pour le faire. Ils savent faire. Par contre, tant qu'on leur a pas dit qu'on n'a pas eu ce contact, c'est pas leur priorité. Ils n'imaginent même pas. Parce qu'ils pourraient avoir l'esprit un peu pervers pour chercher tous ces semaines d'attaque. Enfin, on a quand même une image de pervers globalement quand on parle aux gens à l'extérieur. Vous vivez dans un monde abominable. Hein, sauf qu'il y a abominable le monde, c'est bien. Donc voilà, l'idée c'est de pousser les quelques messages. Et ça ne coûterait pas forcément extrêmement cher, et ça permettrait d'élever significativement la sécurité de ces startups, de plein de choses.
Et créer un lien.
Mais on n'ira pas détacher des agents d'ANSSI pendant des mois dans les startups, ça n'a pas de sens.
Enfin là, on parle de sociétés françaises, je le comprends tout à fait, mais quand on regarde dans les objets connectés, il y en a, je n'ai pas fait d'études de marché, mais ça provient principalement d'Asie. Les frigos, le frigidaire par exemple, on a des bons exemples, je ne citerai pas de marque parce que c'est interdit sur nos limites sécu.
Tu viens de le faire.
Ils sont pas très connectés, je crois.
Ici, quelle est votre capacité d'action?
Alors, on n'a pas vocation à sauver le monde. D'accord. On n'a pas vocation à sécuriser les produits qui sont faits à l'étranger, très clairement. On a probablement vocation à alerter contre les risques pour les utilisateurs français, par contre. Ouais. Et les risques, une fois encore, c'est pas il y a des produits français et des produits étrangers, surtout pour les réfrigérateurs. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, les gens doivent savoir que on a un réfrigérateur connecté, ça induit certaines vulnérabilités, et puis ça ne va pas s'arrêter, hein, c'est un exemple parmi mille. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Et ce frigidaire connecté, moi dans ma cuisine, je n'ai pas d'état d'âme, je n'en ai pas, mais pour peu que j'en ai un, c'est pas grave. Par contre, dans le frigo qu'il y a dans mon placard ici dans mon bureau, je tiens à ce qu'il reste, qu'il ne soit pas connecté. Voilà. Et puis pareil dans le bureau du PDG, machin truc, et ainsi de suite. Alors ça, le frigo s'apprête à sourire. Enfin, on a le problème avec les tablettes aujourd'hui. On a le problème avec tout ce qui est outils de mobilité.
Les télés,
exactement.
Oui, qui sont quand même un gros vecteur d'attaque. Parce que pour le coup, il y a un micro, il y a un haut-parleur, il y a une caméra, il y a une connexion Internet permanente.
Bah, surtout le modèle que vous avez derrière celui-là, en fait, il y a déjà deux... Il est passé par vos services, il a été...
C'est une visio sécurisée, l'éditeur ne la voit pas, mais...
Ah, il n'est pas connecté, il n'y a pas de fil.
D'accord. Ça, c'est... Voilà.
D'accord.
Mais on n'est quand même pas très loin du moment où il y aura des rançons logicielles, je ne sais plus comment on dit, sur les voitures, par exemple, où on ne pourra pas démarrer sa voiture avant d'avoir payé.
Alors ça c'est important.
Aux États-Unis, quand tu n'as pas payé ton leasing, la voiture est bloquée.
Quand on parle d'objets connectés, les montres, c'est ce qui fait sourire, même s'il y a déjà des menaces. Les vrais objets connectés aujourd'hui, c'est les transports, hein, c'est les avions, c'est les voitures. Et là, on alerte sur les risques. On travaille avec les constructeurs, notamment automobiles. C'est pareil, hein, c'est des gens qui sont intelligents. Quand ils ont compris, ils savent mettre les moyens pour sécuriser. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour résister à l'envie d'aller aussi vite que le concurrent, qui présente des choses merveilleuses. Enfin, je voyais l'autre jour à la télé une démonstration de voitures électriques de très haute gamme, où le directeur France était tout fier d'expliquer qu'on pouvait mettre à jour le logiciel de la voiture en roulant et que ça incluait les fonctions de sécurité comme le freinage d'urgence. Donc j'espère que c'était juste le directeur commercial qui connaissait pas la technique, parce que si c'est vrai, ça fait froid dans le dos, c'est une évidence.
Ah non, mais ils ont sûrement un double boot et on peut flasher une
partition pour
l'utiliser. Oui,
ça doit être ça.
Ils ont fait ça bien.
Non, mais pour le coup, c'est
ils le font que au tap and go, tu veux. Quand t'es un feu, hop, patch.
Non, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des gens très forts. Mais en même temps, il y aura forcément dans le lot des gens qui auront loupé ça, qui n'ont pas compris que la question de sécurité était absolument primordiale. Donc là, on a un rôle, probablement, au moins vis-à-vis des constructeurs français.
Et dans les années à venir, là, comment vous voyez évoluer le rôle de l'agence? Dans quelle direction, dans quels axes, sur quel thème?
Donc les années à venir, alors, dans 10 ans, je suis incapable de dire.
Bien sûr.
Et la simple raison, c'est que quand on regarde 10 ans en arrière, ça ne ressemblait pas vraiment à la situation actuelle. Donc il faut être extrêmement modeste dans notre domaine. Ce qui se passe, c'est que la surface des gens, des cibles qui peuvent se faire attaquer, a littéralement explosé. On a vu rentrer notamment tous les systèmes industriels en peu de temps. Alors qu'avant, quand c'était électromécanique, c'est un peu comme sur les vieilles centrales nucléaires, je suis assez tranquille en termes d'attaque informatique, on est protégé. Il y a d'autres soucis probablement, mais ce ne sera pas des attaques informatiques.
Il y a quand même mis des alertes sur les bombes EMP, enfin les gens avec des micro-ondes qui viennent sur un parking.
Oui. Oui. Ce qui est à la limite de nos prérogatives, mais en effet, il peut y avoir des risques. Ça, c'est la grande histoire du tempeste, réellement compromettant, qui est quelque chose qui est à la fois très historique et toujours très actuel, malheureusement. Donc on peut continuer à alerter là-dessus. Mais globalement, comme on le dit parfois en souriant, on a parfois une protection par l'obsolescence. Ça marche encore, hein, mais de fait, c'est pas connecté à Internet parce que c'est pas connectable à Internet, tout simplement. Donc, on va vers une connexion massive, on va faire des architectures qui intègrent énormément de composants pris sur étagère, donc connus. Dans l'exemple de la défense, par exemple, avant, on redéveloppait tout. Donc c'est vrai que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de vulnérabilité, mais enfin, elles étaient moins connues. Aujourd'hui, on prend beaucoup de choses sur étagère, parce que pour des raisons économiques et même des raisons fonctionnelles. Donc parfois, on intègre des vulnérabilités avec, et il y a des attaquants qui nous attaquent sans même savoir qu'ils nous attaquent. Parce qu'on peut avoir des virus ou des malwares qui touchent des systèmes qui ne sont absolument pas dans la cible initiale. Donc voilà, une surface d'attaque qui augmente, parce qu'il y a de plus en plus de cibles possibles, parce que c'est vrai que l'interconnexion fait que l'accès à certains systèmes est plus important. Oui. Donc nous, l'avenir, c'est, je pense que ce qui va continuer à augmenter, c'est la surface d'attaque, c'est le nombre, la quantité, la qualité des attaques, clairement, mais ça c'est de la, je me contente d'interpeler la courbe actuelle, où on voit que ça explose littéralement. De plus en plus, ça va concerner les... Parce que alors, jusqu'à maintenant, on s'intéressait aux systèmes les plus sensibles, mais les citoyens, les simples citoyens dont je parlais tout à l'heure, vont être de plus en plus concernés, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans la voiture connectée, peut-être, ne serait-ce que parce que voilà, ces attaques sont extrêmement lucratives aujourd'hui, les attaques par toutes les escroqueries, la drone logicielle, tout ça.
On va parler de France Connect, par exemple. Si demain, il y a un phishing sur France Connect, ça ouvre l'URSSAF, les impôts... Donc, potentiellement, on va vers un monde digital dans lequel le citoyen va être extrêmement exposé à tout ce qui est...
Mais on va vers le numérique. On va vers le numérique. Le mauvais rôle de l'ANSSI, ce serait de se placer en protecteur qui va protéger les gens du numérique. Ça, c'est complètement ridicule. Et de toute manière, on est une agence de l'État. L'État a décidé d'aller vers le numérique parce que pour des questions d'efficacité qui sont absolument évidentes. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner cette évolution. C'est pas de la bloquer parce que de toute manière, on la bloquera pas.
C'est ridicule. C'est pas votre rôle non plus, à un moment donné, de dire ça, faut pas faire.
Mais c'est ça, accompagner.
D'accord.
Mais.
Non. Ça s'appelle le RGS.
Non. Accompagner, c'est de dire bon, ok, ça, c'est votre objectif. Vous utilisez cette ligne droite et on vous explique qu'elle n'est pas bonne, cette ligne droite. Par contre, il faut proposer un chemin alternatif qui est peut-être un tout petit peu plus cher, un tout petit peu plus lent, mais qui atteint bien l'objectif.
D'accord.
Se contenter de dire attention, c'est dangereux, notre expérience, c'est que c'est inefficace.
Oui, et puis ça crée un climat anxiogène, tout le monde fait.
France Connect, c'est un bon exemple. Allez voir la DESIC, qui développe ça. Allez voir la DESIC, leur expliquer attention, ce que vous faites, c'est dangereux. Bah oui, mais on va le faire quand même. Donc c'est pas ça qu'on fait. On va les voir, on fait une analyse de risque avec eux, et on design avec eux des solutions de manière à ce que ce soit sûr en fonction du niveau de risque, que ça matche du niveau de risque. Voilà, c'est constructif et ça c'est efficace à mon avis. Et il peut rester des cas aux limites où on dit il n'y a pas de solution. Ce que vous voulez faire, c'est juste pas possible. Et donc il va falloir être un tout petit peu moins ambitieux et accepter de faire un petit peu moins d'économie. Mais il faut que ça reste marginal, parce qu'autrement, on est juste des cassandres qui crions à crions au loup, et ça, c'est inefficace.
Et justement, alors comment va évoluer l'ANSSI face à ces problématiques?
Donc on évolue de manière assez opportuniste. On a, du point de vue connaissance technique, laboratoire, on suit les nouvelles technologies. Il faut impérativement qu'on soit le plus proactif possible, détecter ce qui va être important, même si une fois encore on est sur un sujet où savoir ce qui va se passer dans 10 ans c'est quand même très difficile, hein, il faut être très modeste. Donc on se développe dans ce domaine-là. On va continuer à se développer au niveau opérationnel parce que, et c'est pas du tout péjoratif, mais aujourd'hui tout ce qui est réaction à incident c'est très artisanal. La détection c'est très empirique aussi. Donc il faut qu'on continue à avancer. Là il y a une course avec les attaquants qui est réelle. Donc ça va continuer à se développer très clairement. Et puis impérativement il faut qu'on développe. Voilà, c'est important d'avoir une ANSSI qui soit compétente. C'est important d'avoir un écosystème plus généralement de haut niveau de manière à répondre à des besoins qui dépassent complètement les capacités de l'ANSSI. Ça va pas s'arranger quelque part. Et il faut que notre rôle, il est de pousser cet écosystème à se développer, de qualifier, d'indiquer quels sont les acteurs compétents et de confiance. Voilà, là, on est dans notre rôle. Et ça, c'est vraiment un axe fort sur lequel on va continuer.
Parce que déjà, il y a plein de portes qui sont ouvertes potentiellement. Par exemple, de la piraterie maritime électronique avec le brouillage GPS, la sécurité dans les avions. les avions qui maintenant prennent feu parce que la version logicielle qui faut rebooter l'avion tous les 42 jours, et c'était ça le truc. c'est arrivé à Boeing, c'est une chose industrielle française. Donc potentiellement, il y a déjà des tonnes de directions dans lesquelles la sécurité informatique peut.
Donc ce n'est pas l'ANSSI qui va aller voir chacun individuellement pour faire la sécurité à sa place. Ce qu'il faut impérativement, c'est réussir, et pas que l'ANSSI, hein, globalement, à porter ce message de sécurité. Donc là, c'est toute une collectivité qui doit faire ça, où il y a une responsabilité globale, pour aller dire, attention, d'accord, vous fabriquez des avions, mais la sécurité fait partie de vos missions. Alors, les avions, c'est un mauvais exemple, parce que la sécurité, ils en font depuis l'origine de l'aviation. Enfin, ils font la sûreté depuis l'origine.
Plutôt,
oui. C'est des gens sérieux, c'est des gens qui... Ces gens qui brassent des milliards, un avion qui tombe parce qu'il y a un problème logiciel, c'est pas bon commercialement. Donc il y a une motivation de manière.
De toute façon, la différence avec l'industrie normale, c'est que chaque accident d'avion fait l'objet d'un rapport d'investigation. Alors que chaque virus qui débarque sur un poste en entreprise ne fait pas du tout l'objet d'une investigation. Le poste est reformaté et personne ne se pose la question comment y arriver.
Non, mais, donc, mais les avions, ça, à la limite, il ne faut pas raisonner avec cet exemple-là parce que justement, on a affaire à des gens sérieux. Le maritime, je ne dis pas que ce n'est pas des gens sérieux, mais un bateau qui n'a plus de moteur, bah, ce n'est pas un bateau qui coule. Donc, on est peut-être moins sensibilisé. Par contre, prendre le contrôle de la propulsion d'un navire, on peut quand même faire de gros dégâts dans un port, par exemple. On peut s'en servir quand même. Quand c'est lancé, hein, ça peut faire des dégâts. Prendre le contrôle des systèmes de gestion d'un port, on voit, c'est une complexité absolument hallucinante. Et certains l'ont déjà fait. Hein. Les trafiquants de drogue ont pris le contrôle de la gestion des containers pour être capable d'exfiltrer ou d'aller chercher dans le conteneur. Enfin, c'est digne de James Bond, mais sauf que c'est la réalité. Et ces gens-là, quand on va les voir, ils disent, mais c'est pas possible. Là, ils découvrent quelque chose qui est totalement nouveau pour eux. Alors, de la sûreté, ils en faisaient, mais plutôt avec des maîtres chiens et des barbelés. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une autre manière totalement différente d'aborder la sécurité, complémentaire. Et là, on a un rôle à les pousser vers ça, mais on ne fera pas le travail à leur place. Clairement pas.
Oui, c'était plus dans l'idée d'ouvrir des portes en disant, si l'ANSSI a effectivement vocation à doubler ou tripler de taille dans les prochaines années, il y aura de toute façon du boulot pour occuper. Il y aura des nouvelles directions à explorer.
Donc, de toute manière, on ne va pas tripler. Enfin, moi,
Il y a une masse critique pour vous.
L'administration, il ne faut jamais refuser les ressources, hein, surtout en ce moment, ce serait indécent. Mais il faut en permanence se demander voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos ressources. Parce que voilà, embaucher des gens et leur trouver du boulot, ça j'ai aucun souci avec ça. Mais est-ce qu'à un moment, on n'est pas en train de faire ce que d'autres devraient faire, que ce soit les clients ou les cibles, ou bien des prestataires privés. Et donc, il faut qu'on se recentre en permanence. D'abord, il faut qu'on augmente en permanence nos capacités. Enfin, on ne doit pas se reposer uniquement sur le nombre. Hein. Il faut également qu'on soit toujours meilleur. Et puis également, il faut toujours se dire, voilà, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire? Est-ce que plutôt que de pêcher moi-même, je devrais pas apprendre à pêcher à quelqu'un d'autre? Ça, c'est, voilà. Et donc, la taille limite, j'en sais rien. Aujourd'hui, on est 450. On voit qu'on est encore sous-optimal pour couvrir les domaines qui sont purement régaliens, où il faut impérativement passer par une agence de l'État. Quand on sera entre 600 et 700, il y aura une vraie question à se poser. Alors je ne veux pas anticiper, hein, c'est pas le moment, mais voilà, je ne vois pas tripler par rapport. Dépasser les 1000, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais une fois encore, on sera dans plusieurs années, peut-être que le contexte aura encore totalement évolué. On ne peut pas l'exclure.
Et qu'est-ce que vous aimeriez changer au sein de l'ANSSI dans les années à venir ? Ou faire évoluer ? Faire différemment ?
Le papier peint, je crois. Là où il y a des tâches.
Non, alors, c'est une question piège, parce que l'ANSSI change en permanence et change très vite. Ce qui est anxiogène hein, pour beaucoup d'agents. C'est pas facile hein, de travailler dans un milieu qui bouge en permanence. Les missions changent, les têtes changent, le volume change. Donc... il faut à la fois avoir un changement pour s'adapter à nos missions, pour intégrer nos nouveaux moyens, et en même temps créer un contexte de travail qui reste attractif pour les agents. Donc il faut être très, très, très prudent avec le changement pour le changement, même si c'est assez facile dans le domaine.
Mais la question,
on est plutôt dans la conduite du changement.
Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer vous sentez, peut-être vous dites, tiens, il y a un truc qui ne marche pas bien.
À un moment, il y avait l'idée de créer une fondation, par exemple, de transférer des profils un peu atypiques. Alors, c'était votre prédécesseur qui avait cette idée, mais créer une fondation pour transférer les profils atypiques et leur donner des CDI de droit privé pour qu'ils fassent de la recherche sur des choses qui sont un peu difficiles pour une agence d'État, comme par exemple attaquer les produits commerciaux et dire, voilà, on a trouvé des failles dans tel modèle de logiciel ou d'équipement.
Alors, ça, cette idée sous forme de fondation, elle a été torpillée pour des raisons que je n'aborderai pas ici. Pas de notre fait. Sans rentrer dans les détails, on s'est rapproché de l'IRT Systemix. Pour ceux qui connaissent les IRT, hein. Les IRT sont des structures justement à but non lucratif, mais de droit privé, qui sont là pour favoriser justement la recherche, la R&D avec des acteurs variés. Donc on a une convention avec l'IRT Systemix, on finance des travaux de recherche, c'est tout récent. Et on va développer avec eux des choses qu'on ne ferait pas forcément en interne, justement autour de la ville intelligente, des smart grids, des choses comme ça. Et ça, c'est lancé. Et c'est une manière, justement, d'avoir des doctorants, d'avoir des gens du privé qui viennent travailler avec nous. Je ne sais pas prendre aujourd'hui des gens du privé et les intégrer dans des labos de l'ANSSI. Par contre, là-bas, ce sera le bon endroit pour faire ça, et c'est déjà le bon endroit où on a commencé à travailler avec eux. Donc on a repris, évidemment, cette idée de fondation, et on l'a rebloté différemment. Et quelque part, il faut qu'on reste très agile, justement, sur nos coopérations avec, avec les autres, avec le privé, avec le semi-privé que je viens de mentionner, avec la recherche académique, ça, ça reste quand même un axe de, là pour le coup, de mouvement, d'évolution. Mais c'est pas changé parce que ça marche pas aujourd'hui. C'est voilà une sorte d'innovation un petit peu continue.
D'accord, très bien.
Il y a aussi des choses à faire dans le domaine du bug bounty. Par exemple, l'université de Pennsylvanie, je crois, aux États-Unis, a fait un petit concours sur à quoi ressemblerait un bug bounty du gouvernement américain. Une idée assez difficile à mettre en place, mais intéressante intellectuellement.
Donc il y a le faire nous-mêmes, je le sens pas. Il y a soutenir des gens du privé qui voudraient le faire, ça je le sens beaucoup mieux. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Mais je vais être très franc, hein, j'ai découvert le bug bounty il n'y a pas si longtemps. En gros, c'est en allant à la nuit du hack. Et voilà, clairement. Mais il y a des choses où on est plus fort en le faisant nous-mêmes, il y a des choses où on est plus fort en aidant d'autres à le faire. Voilà. Et là, typiquement, on est dans le second cas.
Bah, typiquement, le bug bounty, ça demande de faire circuler de l'argent. Il y a des problèmes, surtout si on achète...
Nous, on ne saura pas faire. Enfin, c'est évident qu'on ne saura pas faire. Non pas qu'on n'ait pas d'argent, mais enfin, pas pour faire ça.
Alors, si vous deviez dire une chose aux Français, au journal de 20h, que diriez-vous ?
J'ai un discours qui n'est pas très drôle, mais en général, c'est de passer le vieux message qu'on avait sur les affiches dans les vieilles usines, c'est la sécurité est l'affaire de tous. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Je ne veux pas transformer les Français en experts en cybersécurité, ce serait triste d'ailleurs, probablement. Mais c'est bien de leur dire, attention, le numérique c'est génial, et puis bah, vous en consommez de plus en plus, mais vous avez un rôle à jouer dans la sécurité, et si vous ne jouez pas ce rôle-là, eh bien, vous allez avoir de très mauvaises surprises. Et ça peut être dans les comportements, dans l'utilisation des smartphones, des tablettes et tout ça. Plus généralement, c'est dans l'esprit critique qu'il faut avoir, notamment dans la protection de ses données personnelles. Et je pense qu'on est juste à l'aube des problèmes dans ce domaine-là. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est un sujet qui fait l'objet d'ailleurs de négociations internationales qui m'inquiètent beaucoup, dans une approche très, très commerciale des choses. Je pense qu'un des rôles de l'État, c'est justement de mettre en garde contre le fait que ces données, un jour ou l'autre, elles vont se retourner potentiellement contre les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas besoin de faire un cours qui dure des heures. C'est juste, ben attention, votre nom, votre adresse, vos préférences, vos orientations, ça c'est quelque chose qui est constitutif de vous, et faites attention à ce qui pourrait en être fait, donc ne les dilapidez pas, de cette manière. Et puis, évidemment, il y a les quelques réflexes techniques que je pousse, et le fait de dire que voilà, la sécurité, c'est pas un travail uniquement de spécialiste, on a besoin d'excellents spécialistes, mais c'est également un domaine où on a un rôle à jouer, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans sa vie professionnelle, et faire une véritable sécurité efficace, au bon niveau, en excluant les personnes elles-mêmes, c'est quelque chose qui est voué à l'échec.
On peut peut-être poser une petite question bonus.
Aïe.
Non, mais on peut avoir un teasing sur la keynote des assises.
Mon message, j'avais déjà un peu porté l'an dernier, c'est de dire que on est face à une menace qui donne le vertige, très souvent. Enfin, moi j'ai affaire à des gens qui n'ont pas encore été victimes ou qui ne savent pas, et donc ils ont du mal à les convaincre. Et puis, donc ils sont dans le déni, on va dire. Et j'ai affaire à ceux qui ont été attaqués. Et alors ceux, ils sont plutôt en mode panique, à courir dans les couloirs, en mode c'est la fin du monde. Donc il faut ramener les gens au milieu, hein, rester froid, rester serein, et en même temps rester lucide et actif face à ces questions de sécurité. Et ça doit se jouer de manière collective. Voilà. Si on veut, quand on voit l'ampleur de la menace telle qu'elle se développe, et qu'elle va continuer à se développer, eh bien c'est jouer collectif entre les entités de l'État, les offreurs de sécurité, les gens qui ont besoin de se sécuriser, et ça c'est typiquement c'est un message adapté évidemment aux assises, hein, qui est un endroit également un peu commercial, mais où on a surtout les représentants des offreurs et les représentants des clients. Et donc ce message c'est vraiment de jouer collectif, de jouer ensemble, et quand on passe par la loi pour sécuriser les opérateurs d'importance vitale, c'est exactement ça. Faire une loi où l'ANSSI dans son coin aurait écrit des règles tout seul pour dire vous allez faire ci, vous allez faire ça, c'est totalement voué à l'échec. Faire ce qu'on a fait, je ne veux pas faire la panégyrique de ce que fait l'ANSSI, mais faire des groupes de travail avec les opérateurs d'importance vitale eux-mêmes, pour dire voilà, il faut qu'on mette des règles, il faut que ces règles soient efficaces, soient adaptées à votre métier, qu'elles soient soutenables financièrement, mais en même temps qu'elles élèvent significativement le niveau, parce qu'aujourd'hui c'est pas bon, ça c'est remarquable d'avoir réussi à faire ça, et c'est grâce aux OIV eux-mêmes d'ailleurs, hein, parce que sans leur bonne volonté, on n'aurait pas réussi. Et c'est ce jeu collectif qui permet aujourd'hui, à mon avis, de positionner la France dans les pays, alors je ne dis pas qu'on est bien protégé, hein, parce que ce serait. Mais probablement parmi les mieux protégés face à la menace cyber. Il suffit de dire ça pour une catastrophe ce soir, mais.
Bon, allez, on y va. Alors, j'ai vu qu'il y avait un cybercafé.
Le téléphone n'a pas sonné.
Non, mais on l'a coupé. Hein.
Bon, monsieur Boubard, bon. Un grand merci de nous avoir reçus.
Avec plaisir.
Si vous vous dites que vous aimeriez travailler à l'ANSSI, eh bien, je vous conseille d'aller sur le site. Actuellement, sur le site de l'ANSSI, il y a plus de 70 annonces, donc des métiers très variés, mais toujours, bien sûr, dans le domaine de la sécurité. J'invite également nos auditeurs à vous suivre lors de la keynote des Assises. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres épisodes, peut-être avec des gens de vos équipes.
Ben pourquoi pas.
En tout cas, ce fut un plaisir.
Partagé.
On espère que ce podcast vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.